Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons l'application pour les enfants Lily pour être bien dans ses baskets avec son cofondateur Arnaud Massoni. Grand spécialiste du digital, il a récemment créé cette application pour les enfants de 5 à 12 ans afin de reprendre confiance en soi. À l'aide de podcasts philosophiques, jeux d'improvisation, méditation et autres activités ludiques, l'enfant est autonome dans l'apprentissage et la compréhension de ses émotions. À destination des parents et des écoles, Arnaud nous a partagé avec passion ce projet monté à plusieurs. On vous invite tous à découvrir très vite Lily. Bonjour Arnaud.
Bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie.
Bonjour Arnaud.
Merci de nous accorder ton temps aujourd'hui pour parler de ton nouveau projet qui s'appelle Lily. Alors avant que l'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et de ton cheminement jusqu'à la création d'un projet éducatif ?
Avec plaisir. Alors, je suis l'un des cofondateurs de Lily, j'en suis le CEO. Et Lily, c'est une application, donc on va y revenir, à destination des familles et des enseignants, pour aider les enfants à être bien dans leur basket. Alors, mon parcours, eh bien, un peu comme toi, je crois, Stéphanie, je suis fils d'enseignante. J'ai été élevé à l'école Freinet, donc l'école de la créativité, de l'expression libre. Et je suis père de 3 enfants. Donc, je suis assez sensible au sujet d'éducation. Après, d'un point de vue professionnel, je travaille depuis 20 ans dans le digital. J'ai monté plusieurs startups, j'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé chez Google. Et maintenant, je suis aussi très investi dans l'entrepreneuriat social. Voilà, donc ça, c'est mon yang professionnel. Et à titre personnel, enfin, je pratique la méditation, le yoga et le théâtre d'impro. Donc, il y a beaucoup de tout ça qui se retrouve finalement en convergence derrière le projet Lily dont on va parler aujourd'hui.
Super. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience avec la pédagogie Freinet ?
Oui, alors ma mère donc était enseignante et elle est toujours là pour, j'espère, nous écouter. Bonjour maman. elle était de l'école dite moderne, donc de Freinet. En fait, j'ai fait ma maternelle d'abord sur les bancs de l'école avec elle, en maman institutrice. Ça a bien forgé mon caractère. Et puis après, j'ai eu des enseignants au primaire qui avaient en fait intégré les grands principes de Freinet, comme beaucoup le font. Hein. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que j'ai baigné dans une pédagogie différenciée, dans des classes multiniveaux où on avait chacun notre plan de travail, où on s'auto-corrigeait, où on avait une logique d'entraide, de coopération très développée. Et puis surtout, et c'est ce que je pense, ce qui m'a le plus marqué, c'était donc la coopération, mais aussi l'expression libre, chère à Célestin Freinet, qui était au cœur de tous les projets d'école. Et ce que je raconte souvent, c'est que pendant 2 ans, on a créé en fait une langue de toutes pièces, la langue des singes et non pas la langue des signes. On a créé la langue des singes et on a écrit une pièce de théâtre. Et après, on l'a illustrée, puis après, on l'a publiée et après, on l'a jouée sur scène, bon, avec des parents qui comprenaient pas forcément ce qu'on racontait. mais voilà, donc c'est vraiment très freiné là encore, parce que c'était la juxtaposition de disciplines, du détournement créatif et voilà, beaucoup d'expressions. Donc freiné m'a teinté, entre guillemets, m'a heureusement teinté. Et il y a beaucoup de freinés dans Lily. Il y a cette autonomie dans l'apprentissage, il y a cette créativité, cette expression artistique, et puis cette place de l'oral et de l'échange. On va y revenir.
Et est-ce que, avec tes enfants, tu as continué à t'inspirer de ces pédagogies alternatives?
Alors oui. Bon, d'abord mes enfants. Donc j'ai mes 3 enfants sont les premiers bêta-testeurs avec les enfants des autres cofondateurs et trices de Lily. Hein, donc ils sont vraiment aux premières loges. Et puis effectivement, alors ça participe un peu de la raison d'être de Lily, c'est que mes enfants ont la chance, je pense, d'avoir des clés supplémentaires que avec ma femme on essaie de leur donner en complément de l'école. Et voilà, que ça soit faire du théâtre d'impro, ils ont fait de la méditation et du yoga avec Sarah qui est cofondatrice de Lily. Ils sont dans toutes ces cours de dessin, d'ateliers créatifs ou de musique. Voilà, donc ils ont beaucoup d'armes. Et le principe de Lily, c'était de dire, essayons de jouer un peu notre part, comme dit, je crois, Julien Perron, et essayons de redonner des clés à des enfants qui peut-être ont moins de chance et n'ont pas accès à ces clés de confiance.
Et ça, on y reviendra. Tu as complètement raison. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ta pratique du yoga et de la méditation, et on voit bien que ces pratiques ont eu un rôle majeur dans la création de ton application. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ces pratiques et comment elles s'inscrivent dans ton quotidien et celui de tes enfants ?
Oui, alors moi j'ai effectivement la chance d'être méditant et yogi. Donc j'ai découvert la méditation en suivant le protocole qu'on appelle MBSR. Donc il y a 6 ans, le MBSR c'est Meditation Based Stress Reduction, c'est un programme qui est encadré médicalement et qui permet en fait notamment pour les maladies longues, mais pas que hein, bien sûr, de réduire le stress par la pratique de la méditation. Donc moi je suis rentré par là dans la méditation. Et j'en suis vraiment très heureux de ce que ça a pu m'apporter. Et puis le yoga, je le pratique avec ma femme, sans sa souplesse, mais avec la même joie. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ce qui me concerne sur cette pratique. Après, pour Lily, méditation et yoga, et au sens plus large, on va dire, les ateliers de calme et de concentration, c'est effectivement l'un des 3 piliers de l'application, un des 3 piliers en termes d'activité et de podcast qu'on propose aux enfants. Et alors pourquoi? Bah, je dirais il y a 3 raisons qui sont assez logiques si on se concentre sur la méditation notamment. C'est que il y a des choses qui ont été établies, c'est que la méditation aide les enfants à se concentrer. Et ça c'est un sujet énorme à l'heure du multi-écran encore plus. Donc première clé, aider les enfants à se concentrer. Deuxième clé, c'est les aider à prendre conscience de leurs émotions, donc de mettre un nom sur leurs émotions, de les accueillir, de mieux les vivre autant qu'ils peuvent. Et puis le troisième niveau, en fait, c'est la bienveillance qu'ils peuvent finalement développer grâce à la pratique envers eux-mêmes, d'une part, et envers les autres. Et tout ça, en fait, ça s'appuie pas uniquement sur des déclarations d'intention, de souhait ou voilà. Il y a des études scientifiques qui ont été menées à travers le monde et notamment en France. Là, je vais vous parler de l'étude de Grégory Michel, qui est un professeur de psychologie clinique qui a travaillé en 2019 sur plus de 100 élèves du primaire sur l'impact de la méditation. Et alors, en fait, c'est intéressant parce que les deux apprentissages, donc mesurés, mesurables, ils vont dans le sens de ce que je disais juste avant. D'abord, un meilleur vécu des problèmes émotionnels. Donc, ça diminue finalement. Le symptôme est là, s'il y a de la tristesse ou de l'anxiété, mais il est vécu de manière amoindrie par l'enfant. Et le deuxième axe, le deuxième type d'impact, c'est l'amélioration du climat collectif et des relations dans la classe. Donc, on n'est plus uniquement dans l'entre-soi, on est dans la méditation qui va créer finalement du lien, de la bienveillance, une plus grande écoute, un peu moins de disputes, un meilleur climat scolaire. Et donc voilà, la méditation pour nous, que ce soit en classe ou que ce soit à la maison, bah ça permet finalement de se construire en tant qu'enfant en vivant mieux avec ses émotions pour mieux vivre avec les autres. Voilà, c'est vraiment faire le pont entre soi et le monde, et c'est pour ça que pour nous, et on va y revenir, j'imagine, c'est le premier volet, la première étape pour aider à développer la confiance des enfants.
Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler des étapes suivantes de Lily ?
Eh bien, oui. non, effectivement, Lily, c'est trois volets. Donc, c'est une suite d'outils, en fait, pour prendre confiance et pour aller petit à petit vers les autres et vers le monde. Donc, on va commencer en solo. Là, j'en parlais à l'instant. On va apprendre à mieux gérer ses émotions avec ces petits ateliers de calme. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des bulles sonores. Il y a de l'origami qui est assez classique pour prendre un instant pour soi. Voilà, on va commencer par apprendre à se poser, apprendre à se concentrer. Deuxième volet, l'expression sous toutes ses formes, mais essentiellement orale. Donc, on va aider à travers des petits jeux d'impro à ce que l'enfant s'amuse avec ses frères et sœurs, ses cousins, ses amis ou ses camarades de classe. Et alors, l'impro, c'est absolument, j'allais dire, c'est pas méconnu, mais c'est pas assez exploité, je dirais. Sylvie, peut-être tu pourras. On pourrait changer là-dessus. C'est assez fort parce que ça permet trois choses. D'abord, un, le lâcher prise. Quand j'improvise, bah, ça participe du fait que j'arrête d'être dans le contrôle et j'y vais. Deux, l'écoute de l'autre et la co-construction. Alors, il y a un mot, je parle trop, où ça va? tu me dis.
Ah non, c'est super, c'est passionnant.
D'accord.
Continue.
Ah ouais, ok. Je m'en rends pas compte. Bon, il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot de la répartie. En fait, on doit repartir de ce qu'a dit l'autre pour continuer l'histoire. Dans Lily, il y a un atelier d'impro qui s'appelle Oui et où l'enfant, il doit imaginer qu'il raconte une note en rentrant chez lui à son parent. Bon, ou alors qu'il est dans la cour de récré avec un autre surveillant et qu'il y a un enfant qui vient le voir. Et on s'engage dans l'impro, mais on ne sait pas ce que va dire l'autre. Donc, on est vraiment dans j'écoute et je rebondis et je pars pas avec bille en tête ma propre histoire, ma propre blague. On est dans la co-construction, on s'amuse et finalement, on se rend compte inconsciemment, comme dirait Maria Montessori, on prend confiance inconsciemment et on crée des chemins de confiance, même si comment dire, au début on n'était pas à l'aise. C'est un peu comme quand on joue à Time's Up en famille, nous les grands, bah au début ça nous embête presque qu'il y ait l'oncle ou le cousin qui dise allez on fait Time's Up, ah oh, t'es sûr, on peut pas faire un Scrabble plutôt. Et puis en fait voilà, le Time's Up il sort et à la fin on se rend compte qu'on est debout en train de hurler et voilà, on s'oublie. Donc ça, c'est l'impro, c'est le deuxième volet. C'est hyper important pour les enfants à un moment où ils ont des barrières qui commencent à naître avec le regard des autres, bah, d'apprendre à lâcher prise et puis de voir qu'ils peuvent s'amuser à l'oral. Et tout ça, c'est inconscient, évidemment. On leur explique pas ce qui est en train de se passer d'un point de vue cognitif ou neurologique, hein, mais simplement, l'air de rien, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est un impact qui est en train de se faire à travers le jeu pour son enfant. Et le dernier volet, donc, la philo. Donc, la philo, en fait, chez Lily, ce sont des podcasts philo sur les petites et les grandes questions du quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ami, pourquoi je suis triste, les filles, les garçons, c'est pareil, ça veut dire quoi être intelligent. Voilà, plein de, soit des questions qu'il peut avoir et qui sont pas faciles à aborder, on va dire, avec lui-même ou avec ses parents, ou alors des injonctions qu'il peut entendre. Ne te mets pas en colère, ne sois pas timide. Alors qu'évidemment, on se met tous en colère et puis on a tous notre part de timidité. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller, grâce à ces petits podcasts philo assez courts, partir d'une situation du quotidien, comme quand on lit un livre avec son enfant ou comme quand il lit un livre par lui-même ou quand elle lit un livre par elle-même. Donc, on part d'une situation et il va y avoir un échange qui fait que avec son parent, avec son grand-parent ou avec ses camarades en classe et l'enseignant, il va y avoir une confrontation d'opinions et l'enfant va apprendre à se nourrir des opinions des autres, à affirmer son opinion et à exercer son sens critique. Et on pense, avec toute l'équipe de Lily, hein, on pense que ce sont des forces qui sont essentielles à la construction des enfants, c'est-à-dire les compétences du 21e siècle qui sont faire preuve d'empathie, faire preuve de créativité et avoir ce sens du collectif. Et finalement, l'oral en destination, c'est la capacité de construire et de se projeter.
Mmh. Oh, c'est super intéressant. Et je pense que peut-être, Sylvie, tu peux rajouter quelque chose là-dessus. Je sais que toi, tu pratiques les ateliers philo avec les petits et c'est vrai que tu dis souvent qu'il leur sort des choses complètement incroyables.
Oui, c'est vrai. Nous, on pratique les ateliers philo, la méditation et puis un peu de sophrologie. Et c'est vrai que, du coup, moi, j'ai écrit un livre là-dessus sur des ateliers, justement, sur les sujets dont tu parles, hein, l'amitié, la colère, le travail, etc. Et je suis partie justement de pour ce livre des réflexions des enfants parce que c'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de dire et de ressentir. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il est très très important de mettre ça en place pour les enfants jeunes à partir de 6 ans, 5 ans. Et je pense que l'application, quoi, tu vas nous en dire plus, mais me semble très intéressante parce que moi ce que j'ai observé dans la classe, c'est que il faut qu'il y ait sinon des adultes qui soient disponibles et qui soient ouverts à ce genre de pratique. Et c'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que si on peut trouver quelque chose où les enfants sont autonomes, parce que je pense que c'est un vrai, vrai besoin, comme tu disais, par rapport à la concentration. Moi, je vois quand ils ont des problèmes de concentration, si on leur donne des clés pour avoir un petit moment de méditation, eh bien, ils se reconcentrent beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas tous le même problème au même moment. Et que donc, c'est pour ça que c'est une application me semble très intéressante. Parce que moi, c'est un des soucis que j'ai dans ma classe. C'est que quand je suis pas là ou quand certains adultes ne sont pas là, eh bien, ces moments-là n'ont plus lieu. Et donc, je trouve ça dommage que les enfants en ont vraiment, vraiment besoin. Donc, c'est pour ça que j'étais très intéressée par ce que tu fais pour les rendre autonomes, quoi, que ce soit pas dépendant des adultes, en fait.
Mais je suis encore une fois honoré de tout ça, de tous ces mots. Et effectivement, c'est les graines de sagesse dont tu parlais.
Oui, c'est ça.
Ah ouais, oui, c'est super. Oui, bah effectivement, dans les classes, ce qui est assez intéressant avec Lily, pour les enseignants qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur école.lily.cool. On a mis quelques témoignages. On a commencé à mettre des témoignages d'enseignants et d'enseignantes, et puis même une vidéo qui est assez exceptionnelle. De Cécile qui nous a partagé comment est-ce qu'elle le vit en classe et comment effectivement c'est une petite bulle d'air pour ses élèves et pour elle-même finalement. Effectivement, l'application c'est un support, donc elle est à 90% sonore. Donc d'abord, première chose pour rassurer tout le monde, et on est tous inquiets et à juste titre du rapport à l'écran. Le fait que ça soit sonore, on y reviendra peut-être après, mais ça permet beaucoup de choses, ça enlève beaucoup de freins en classe. On lève beaucoup de loups. La marche est beaucoup moins haute pour les enseignants parce que ils peuvent ne pas se sentir à l'aise de conduire une méditation, ou alors peut-être que si, mais animer un atelier d'impro, ça leur paraît absolument trop compliqué. Et de la même manière, comme Sylvie, tu le disais à l'instant, un débat philo, bah comment est-ce que je vais l'appréhender, comment je le lance, surtout que c'est quand même assez délicat de commencer à permettre une vraie confrontation libre d'opinion sur des sujets qui peuvent être parfois pas simples à aborder. Et donc là, il suffit entre guillemets d'appuyer sur play et de se laisser guider par la voix, qui peut être soit l'atelier de méditation, soit le petit jeu d'impro, ou soit donc une mise en situation de philo pour la classe. On a réécrit en fait en regard de l'application des ateliers spécifiquement pour la classe et qu'on offre à tous les enseignants qui le souhaitent. Après, il y a une version un peu plus aboutie, mais déjà il y a une version qui permet de mettre ça en place. Et en 6 mois, on a déjà plus de 500 classes qui utilisent Lily. Donc, je pense qu'on répond à un besoin.
C'est sûr que tu réponds à un besoin. C'est sûr.
Ben, en tout cas, nous, on est ravis parce que ça fait partie de l'enjeu d'impact de Lily. Hein. Derrière Lily, on est tous avec un grand cœur et une volonté d'impact. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. Et les thèmes qu'on a proposés pour la classe, donc l'application avec des ateliers qu'on a packagés pour la classe, ce sont sur des thèmes qui aident au climat scolaire et à la confiance des enfants. Donc, c'est des thèmes comme la bienveillance, les émotions, l'apprentissage par l'erreur, la moquerie aussi, qui est un sujet absolument fondamental aujourd'hui à l'école. Ben voilà, là, il va y avoir par exemple un podcast de philo sur le thème de « ça va, on rigole ». Et c'est quoi la différence de rire avec quelqu'un et rire de quelqu'un ? Et puis l'effet groupe. Et là, on va avoir ces petits podcasts qui vont guider l'enseignant. Et puis, en plus, il y a d'autres contenus derrière. Il peut y avoir des activités en complément dans l'application pour que soit en classe, soit à la maison, il y a un prolongement dans la pratique et un prolongement dans l'échange même avec les parents pour ceux qui auraient des familles à l'écoute, on va dire, sur ces sujets-là, pour que vraiment il se passe quelque chose et qu'on ancre fortement ces sujets de voilà, d'écoute de soi, d'écoute des autres et puis et voilà, de croire en soi.
Super. Et les enseignants n'ont pas besoin d'être formés à l'utilisation de cette application ?
Alors si, ils en ont pas nécessairement besoin parce que bah, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais elle est censée être relativement intuitive. après, elle est pour autant très profonde. Il y a plus de 100 ateliers, il y a plus de 100 podcasts. Et donc, en fait, ce qu'on propose, c'est Sarah qui est cofondatrice qui se charge de tout ce déploiement-là. Elle forme en fait les enseignants qui le souhaitent, ça dure une heure environ à distance, hein, et c'est gratuit. Et on leur explique, elle leur explique, voilà, comment naviguer, si même s'il y a des questions purement techniques de comment est-ce que je peux imprimer ceci, comment est-ce que je peux lancer tel podcast ou autre. Et puis surtout de se rendre compte de la variété qu'il y a derrière l'appli, et puis de faire passer, de pointer du doigt certains exercices qui peut-être de prime abord mérite mérite un zoom pour comprendre tout l'impact qu'il peut y avoir sur les enfants. Si j'ai le droit d'être bavard,
bien sûr.
Par exemple, il y en a un moi que j'aime particulièrement, qu'on trouve dans l'application, dans les ateliers de calme et de concentration, qui est un atelier d'attention. Et cet atelier d'attention, en fait, c'est un petit podcast où on va proposer à l'enfant de regarder autour de lui une pièce qui lui est familière. Donc évidemment, ça peut être la classe, mais ça marche aussi chez lui ou chez elle dans sa chambre. Et donc l'enfant va fermer les yeux et guidé par la voix, guidé par le podcast, il va être invité à se rappeler le maximum de détails de la pièce qui l'entoure. Et puis là, après, on va lui demander, toujours guidé par la voix, hein, de rouvrir les yeux et de voir s'il n'y a pas d'autres détails qu'il aurait pu capturer et voir d'autres qui étaient erronés et refermer les yeux, etc. Alors ça, c'est un exercice qui calme l'enfant, qui l'aide à se concentrer, qui est ludique. En classe, ça peut participer à des moments sympathiques. Et accessoirement, c'est le docteur Ebbinghaus au début du XXe siècle qui a en fait modélisé ce qu'on appelle les courbes de l'oubli. Et les courbes de l'oubli, c'est le fait de modéliser comment est-ce qu'on fait apprendre un enfant. Donc moi, par exemple, tout à l'heure, Stéphanie, tu me disais Lily et mes enfants, quel est le lien? Bah, moi, mes enfants, avec le docteur Ebbinghaus, grâce à lui, je leur ai donné des clés d'apprentissage, de leurs devoirs le soir. Donc, le principe, c'est de dire, tu commences évidemment par écouter et participer activement en classe. Mais quand tu reviens, tu commences, par te remémorer la leçon avant même de la lire. Et après, tu vas la lire seulement. Mais il faut que ton cerveau comprenne ce qu'il a oublié. Et il faut que, de manière intermittente, tu y reviennes. Toujours avec cette logique de courbe de l'oubli. Et c'est par la répétition et par la formalisation par le cerveau de ce qu'on a oublié et de ce qu'on a retenu que l'enfant, finalement, muscle ses capacités d'apprentissage. Donc, le principe, c'est que derrière Lily, il y a beaucoup de sous-jacents pédagogiques très, très forts. Mais oui, pour l'enfant, c'est ludique. Évidemment, il voit rien de tout ça.
Ouais. Ah, c'est super. Et alors, comment vous y êtes pris pour créer tout ce contenu? Parce qu'en effet, l'application semble très profonde sur des sujets très variés. Je suppose que tu as dû très bien t'entourer. Mais est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer un peu plus ce point-là?
Oui. Alors, Lily, c'est une aventure vraiment collective, hein. On est donc plusieurs cofondateurs, cofondatrices, et on est toute une équipe derrière, d'enseignants, d'experts, du digital, du design, de la sonorisation. Donc, par exemple, je vais quand même citer mes deux cofondatrices et cofondateurs qui sont à côté de moi virtuellement. Donc, Sarah, qui est cofondatrice, qui a été ma professeure de yoga, qui a donné des cours de méditation à mes enfants d'abord, mais aussi en classe, qui est en charge du déploiement de Lily dans les écoles notamment. Donc, sur cette partie de méditation et yoga, on avait la bonne personne by design au démarrage de Lily. Axel, il est également cofondateur, il est directeur technique, il est spécialiste de tout ce qui est application mobile, il est en charge de l'expérience utilisateur et du développement de notre application à la fois smartphone, tablette et école. Donc ça pareil, c'est fondamental. Et en fait, l'expérientiel fait que Lily peut avoir cet impact aujourd'hui parce que on va sûrement en parler, mais les pédagogies alternatives, elles sont déjà bien diffuses. Simplement, là, l'idée, c'est de rajouter un outil simple d'accès, ludique, etc. Et voilà, donc Axel, ouais, c'est son combat. Et puis après, il y a alors d'abord des enseignants et des auteurs de référence. Je vais citer, vous les connaissez probablement, Jean-Charles Pétier, Edwige Schirouter, qui sont connus pour diffuser en France et à l'étranger la pratique de la philo pour enfants. Donc Edwige, elle est en charge de la chaire UNESCO de philosophie pour enfants au niveau international. Et Jean-Charles, il a monté Philocité, Philojeune. Enfin, voilà, c'est des personnes très érudites, expertes, référentes, et puis accessoirement au grand cœur, et qui avaient jamais fait de digital. Et en fait, on a conçu ensemble ces podcasts de philo qui sont contextualisés selon qu'on soit un enfant seul ou qu'on soit avec des amis, des camarades, ou qu'on soit avec des adultes, parents, grands-parents. Et là, on va avoir en fait un questionnement, un guide de questionnement philo tout à fait ludique, hein, je rassure, qui va être adapté au contexte. Donc ça, c'est le cœur pédagogique de Lily. Puis après, on a d'autres personnes de talent. Agathe, qui est une directrice artistique exceptionnelle. Gaëlle, Elisa, Nico, Claire, Clara, Antoine, Fred, Julien. Bref, on est beaucoup.
Il y a déjà du monde.
Et voilà, il y a vraiment une très belle énergie et une très belle complémentarité d'expertise et d'engagement sur ce projet.
Non, c'est super. Et en effet, c'était notre première réaction avec Sylvie quand on a navigué sur l'application, c'est que c'est vrai qu'elle est très belle et elle donne très envie d'aller explorer tout ce qu'il y a dedans.
Merci. Lily.cool, Lily.cool, hein, j'ai pas dit l'URL.
Ouais, c'est important. Ouais. Et est-ce que tu pourrais aussi nous parler du format audio? Parce qu'en effet, tu l'as mentionné, 90% du contenu est sonore.
Ouais.
Pourquoi ce choix? Et pourquoi également l'avoir couplé avec une application?
Ouais, bah effectivement, le principe de l'audio, c'est que c'est très engageant. C'est de l'écoute active. Et c'est pas à vous deux que je vais apprendre que voilà, c'est de cette implication de l'enfant que va pouvoir éventuellement naître à la fois la motivation, l'apprentissage, la répétition, etc. Donc, le format audio, par essence, est engageant. Deuxième chose, il est interactif, et ça c'est l'une des clés de l'apprentissage aussi. Donc, par exemple, on a tous connu Lumni sur France Télévisions pendant le Covid, et moi je leur remercie doublement à la fois pour avoir pallié beaucoup de choses dans la journée de mes enfants, et puis pour voilà la qualité de ce qu'ils ont fait. Mais effectivement, on a déjà aujourd'hui des études sur l'écran qui montrent que l'interactivité rend l'écran beaucoup plus utile et s'imprime plus au niveau cérébral en termes d'apprentissage pour l'enfant. Donc là, l'audio encore plus parce que c'est l'interactivité avec une concentration et puis accessoirement une capacité de mouvement. Hein. L'audio me permet de faire du yoga. L'audio me permet de méditer. J'ai pas besoin de regarder une scène de magnifique scène de paysage pour fermer les yeux et me concentrer sur ce que je ressens, sur ma respiration. Donc voilà, donc ça permet aussi justement une certaine activité. Et puis après, moi j'aime à dire que l'oral et l'écrit, c'est de plus en plus lié. Et on le voit à l'école, hein, on le voit à l'éducation nationale, on le voit avec le test de fluence qui a été mis en place, donc la facilité à lire un texte à haute voix qui est maintenant mesuré depuis cette année à l'entrée en sixième. On le voit avec le bac qui serait écrit avec un mix écrit-oral. Et en fait, l'oral, le format audio, aussi d'un point de vue purement académique, c'est vraiment une clé pour la réussite de son enfant. Lily, c'est du bien-être, mais Lily, c'est aussi de la réussite. En tout cas, c'est une réduction de l'inégalité des chances face à la réussite. Et donc voilà, l'oral, c'est important. On est partenaire, nous, des petits champions, qui sont les petits champions de la lecture, qui en fait, auprès de 60 000 enfants tous les ans, au primaire, leur donnent des clés pour bien apprendre à lire à l'oral. Et nous, on est partenaire, on leur propose Lily également pour leur classe. Enfin, il y a vraiment quelque chose oral écrit qui est assez essentiel. Ce format audio, il est très puissant. Voilà. Et après une application, pourquoi une application? Ben, il y a vraiment beaucoup de raisons. Mais je dirais la première des raisons, c'est toucher le plus grand nombre. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Toutes les familles ont malheureusement, elles n'ont pas forcément les tablettes et les smartphones qui vont bien en année Covid, mais pour pouvoir faire rentrer dans la maison Lily, eh bien, il suffit d'un smartphone et ça fonctionne. Après, c'est interactif, c'est ludique et c'est la condition sine qua non pour que les enfants l'adoptent. Il y a eu beaucoup voilà, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas réussi à se jouer parce que bah, c'est dans le triangle enseignant par enfant et à l'arrivée c'est l'enfant et moi je pense que c'est au départ l'enfant, donc l'interactivité et le ludique que permet une application si elle est construite pour cela en termes d'expérience, c'est essentiel. Après c'est nomade, donc on peut avec une appli l'utiliser dans sa chambre, dans son salon, dans le train, chez les grands-parents, en week-end, etc. Évidemment c'est sécurisé et c'est fermé, alors ça c'est quelque chose d'assez essentiel. Et j'aurais pu faire le parallèle sur le format audio, c'est que dans Lily, il n'y a pas de pub, et dans Lily, il n'y a pas moyen d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà, donc moi, j'ai 3 enfants, j'ai qu'une crainte. Bon, j'ai travaillé chez Google, je connais bien le web, ça fait 20 ans que j'y suis, un peu plus. Et donc, bref, les enfants d'enseignants et les enfants de la Silicon Valley, c'est ceux qui ont le moins accès aux écrans et à Internet aujourd'hui. Parce qu'il y a cette crainte des réseaux sociaux. Et ben moi, j'ai la même crainte. Et donc, Lily, ben, quand on télécharge Lily, notre enfant, il peut pas aller ailleurs. Donc, c'est de l'oral, c'est des podcasts, c'est des ateliers interactifs, c'est des échanges en famille, c'est des rires, c'est du dessin, c'est de la méditation, mais c'est pas des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un environnement qui est complètement fermé. Et puis après, c'était vraiment très très fort au jour 1 d'avoir cette sécurisation, voilà, cette logique éditoriale, de s'assurer qu'on sécurise vraiment l'expérience de l'enfant et le parent associé. Et je dirais un dernier point, c'est sur les enseignants. Alors évidemment, s'ils nous choisissent aujourd'hui et s'il y en a qui nous écoutent, il y en a plein qui nous écoutent, vraiment allez j'espère découvrir et contactez-nous école.lily.cool. Mais c'est simple à utiliser, c'est-à-dire que ça ne demande aucun matériel. Évidemment, si on a une enceinte, c'est mieux. Si on n'a pas d'enceinte, ça peut marcher. Et en plus, on peut prolonger l'expérience à la maison. On peut demander à l'enfant d'aller dessiner sa montagne suite à la méditation du jour, d'aller enquêter auprès de ses parents qu'est-ce qu'ils ont pu faire un jour pour gérer une situation intimidante suite à un débat philo en classe sur la timidité, où ils peuvent s'amuser, aller rejouer un exercice, un petit jeu d'impro en famille le soir parce qu'on propose du contenu pour le retrouver à la maison. Voilà, donc c'est simple à utiliser grâce au fait que ce soit une appli.
Ouais, super. Merci beaucoup pour cette explication. Et alors, je me rends compte que j'ai oublié quand même de te poser une question assez cruciale. Ah. Quel âge vous visez avec cette application ?
Eh bien, c'est une question effectivement importante. On vise les 5-12 ans. On vise les 5-12 ans, donc c'est une tranche d'âge qui est assez large. En fait, ce qu'on pense, c'est que c'est bien de viser l'âge auquel les enfants commencent à se construire par rapport aux autres. Il y a vraiment une confluence heureuse sur cet âge-là, sur cette tranche d'âge-là, parce qu'à la fois l'enfant, il commence à prendre conscience de ses émotions et éventuellement des barrières qu'il peut avoir aussi par rapport au regard des autres, par rapport à aller vers les autres. Les parents sont dans cette volonté d'accompagner la confiance en soi de leurs enfants et les enseignants à l'école primaire, parce que c'est vraiment là le cœur de cible. On a beaucoup d'enseignants en maternelle aujourd'hui et on a de plus en plus début de collège. Le gros du bataillon, on va dire, c'est quand même le cycle élémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ces compétences sociales et émotionnelles, c'est difficile de proposer quelque chose en classe, et donc il y a un intérêt, il y a une appétence pour ces ateliers qu'on propose en classe. Donc en fait, tout converge, alors que très vite, entre guillemets, malheureusement ou pragmatiquement, la question numéro un va être celle de l'orientation des enfants. Et quand on est dans l'orientation, il y a des choses qui sont écrites, c'est-à-dire est-ce que je suis timide ou pas, est-ce que je suis communicant ou pas, est-ce que je sais collaborer, est-ce que toutes ces compétences du 21e siècle dont on parlait tout à l'heure, bah c'est vraiment un moment assez fort, assez central de donner ces clés là de manière ludique aux
Bien
enfants.
Bien sûr. Ouais. OK, bah merci beaucoup pour avoir précisé ce point. On arrive déjà à la fin de cette entretien, j'aimerais te poser peut-être 2 questions, si j'ai le temps. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous parler de vos plus gros chantiers là pour cette année avec Lily et des futurs projets ?
Oui. Eh bien, alors d'abord, le futur projet d'il y a 15 jours, c'est qu'on vient de relancer une nouvelle version de l'application. Donc, si jamais vous la découvrez, vous ne saurez pas d'où on vient. Mais là, on a mis en place toute une navigation encore plus fluide, encore plus ludique, avec des playlists qui permettent de vraiment prendre en main la navigation des enfants, avec des arcs-en-ciel, des badges à imprimer, à colorier. Donc on est aussi encore dans du Freinet Montessori et de la créativité. Et c'est très sympa. Donc ça, c'était vraiment un gros chantier qui vient de se terminer. On travaille avec beaucoup d'acharnement et d'enthousiasme pour proposer encore plus de contenu pour les écoles. Donc, si vous êtes enseignant, je le répète, inscrivez-vous maintenant et on vous alertera pour en bénéficier parmi les premiers. Je peux pas encore expliquer le détail de ce qu'il y aura, mais on a envie d'être encore plus complet dans le matériel pédagogique qu'on mettra à disposition des enseignants. Et puis, alors ça, c'est plutôt pour nourrir la mission. On réfléchit à une offre dédiée pour les entreprises, pour les directions des ressources humaines, pour les comités d'entreprise, et pour aider les salariés qui ont des enfants à leur proposer du temps d'écran utile, justement, avec ces clés de confiance, de créativité, de communication, même de leadership, si on veut parler le langage des entreprises, le mettre à disposition, non pas des collaborateurs et collaboratrices, mais de leurs enfants. Voilà, ça c'est un gros Super. Chantier. Si certains nous écoutent, je suis à disposition par mail, avec plaisir.
Super. Et je vais te poser une toute dernière question sur un sujet très différent. Mmh. Alors, je sais pas si dans ton cas, on peut parler de reconversion parce que t'as été habitué à l'entrepreneuriat depuis longtemps, mais tu t'es quand même tourné récemment vers l'éducation et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui font un peu ce revirement de carrière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment en deux mots pourquoi tu t'es tourné maintenant vers l'éducation? Et si tu as des conseils à donner pour des gens qui réfléchissent?
Alors d'abord, moi je dirais que l'éducation et la planète, c'est quand même deux sujets qui nous font tous vibrer et on n'a pas fini d'y passer du cœur à l'ouvrage. Ça c'est d'abord le conseil, c'est s'il y a moyen pour chacun de s'investir sur ces sujets, il n'y a pas plus épanouissant. Voilà. Alors moi en fait je m'y tourne vers l'éducation, mais en fait j'y retourne parce que j'ai débuté dans l'édition et j'ai débuté dans le soutien scolaire par internet en 2000. Et à l'époque déjà il y avait tout ce qui était on valorisait l'erreur, on personnalisait le parcours de chaque enfant selon le principe de remédiation. Donc l'adaptative learning version 2021. Bah moi je l'ai vu avec beaucoup moins d'intelligence artificielle et de connaissances à l'époque, mais il y a plus de 20 ans. Donc c'est un retour à l'origine avec une crise de quarantaine que j'ai voulu heureuse en faisant un peu une convergence entre ma vie pro et ma vie perso, donc le digital et l'entrepreneuriat d'un côté et puis la parentalité, cette sensibilité à l'éducation de l'autre. Et puis je pense que si j'ai cette grande chance là, et puis surtout aussi toute l'équipe, les cofondateurs Tris et toute l'équipe qu'on a croisée sur la route, hein, de pouvoir donner vie à Lily. Mais cette grande chance, c'est quand on a un moment de vie où on peut finalement prendre un virage qui fait qu'on se réaligne. Et y a plein de complexités nouvelles, hein, on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, tout s'efface par rapport à ce qu'on y retrouve. Donc je suis très chanceux et très heureux de ce retour à l'origine.
Super. Ben, merci beaucoup en tout cas et je suis sûre que ça inspirera beaucoup de monde. Bravo encore une fois pour tout ce que vous faites avec Lily. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Et merci bien évidemment pour ton temps et pour ce partage passionnant.
Eh ben, génial, j'étais ravie de cet échange. Vive les échanges. Merci beaucoup.
Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, Rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.